Si on fait beaucoup de choses à la Ligue, comme on l'a vu, finalement, la Ligue, elle est toujours sur... On dit qu'elle est sur deux jambes ou deux axes bien précis. On dit, voilà, c'est pour ça qu'elle est stable. Enfin, c'est donc ce qu'on pense. Et ces deux jambes, finalement, on va dire, c'est le travail parmi l'enfance. Et puis l'autre, c'est toute la question de rencontrer Dieu par la Bible et la prière. Et c'est ces deux choses vraiment qui nous habitent. C'est ces deux axes qui font qu'on est ce qu'on est. Et ce que j'aime bien avec ces deux axes, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que pour nous, c'est impossible de nous reposer sur les lauriers de notre foi. Quand vous travaillez avec des enfants et quand vous écoutez sérieusement la Bible, vous ne pouvez pas être statique dans votre foi. C'est impossible. Si j'ose me permettre, votre rencontre avec les enfants, votre rencontre avec la Bible, ce texte qui nous est quand même transmis un tout petit peu par Dieu, nous oblige à approfondir cette foi, nous oblige à la maturer, à la faire grandir. Et je prends à dessein ce terme d'obliger. Alors, je vais prendre d'abord ce premier axe, la relation à Dieu par la Bible. Là, on sort d'un conseil européen avec cette grande question. C'est vrai que les gens lisent moins la Bible. Mais j'ai beaucoup aimé quelqu'un qui est intervenu et qui a dit « Mais finalement, on prend une énergie gigantesque pour aider les gens à lire la Bible. Mais finalement, s'il avait lu une minute correctement et qu'il mettait en pratique sérieusement, ce serait déjà super. » Est-ce qu'on ne devrait pas mettre plus d'énergie à comment on met en pratique ce texte plutôt que de simplement le lire? Et ce qui fait que moi, quand je suis face à mon travail d'offrir des outils pour aider les gens à lire la Bible, je me dis, c'est bien, mais finalement, ça sert à quoi de lire la Bible? Quel est le but final? Ça change quoi d'écouter cette parole de Dieu? Est-ce que c'est si important de la lire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Qu'est-ce qui se passe une fois que je l'ai lu? Ça change quoi? Est-ce que je lis la Bible comme je vais lire le dernier roman de Marc Lévy ou le journal? Est-ce que lire la Bible, c'est tellement ça qui est fondamental? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Qu'est-ce qui doit être différent dans notre lecture de la Bible? Et je vous invite donc à écouter la Bible dans le chapitre 8 de l'évangile de Luc. C'est un texte très connu. C'est finalement Dieu qui nous dit qu'est-ce qui se passe en nous quand il sème la parole en nous. Finalement, qu'est-ce qui va se passer avec cette parole? Chapitre 8 de l'évangile de Luc à partir du verset 4. Une grande foule s'assemble et des gens de diverses villes vinrent auprès de lui et Jésus dit cette parabole. Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tombe sur le roc et quand elle pousse, elle sèche, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tombe au milieu des épines, les épines poussent avec elle et l'étouffent. Une autre partie tombe dans la bonne terre, et quand ça pousse, ça donne du fruit au centuple. En disant cela, il s'écria que celui qui a des oreilles, je crois que ça va, vous en avez, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà ce que Jésus avait à dire sur ce qui se passe quand il sème la parole en nous. Alors, je ne vais pas vous lire le descriptif et l'explication, ce serait trop simple. Mais finalement, ce combat de recevoir une parole et qui va chercher son chemin en nous, eh bien, Jésus, il l'explique magnifiquement bien. On a là la péripétie de la parole de Dieu dans tout être humain, chrétien ou pas. Tout être humain, à mon avis, a ses diverses réactions vis-à-vis de la parole de Dieu. Et pour moi, la question n'est pas de savoir quelle terre je suis, parce qu'à mon avis, on est les quatre, d'une manière ou d'une autre, en fonction des circonstances de vie, en fonction, j'ai presque envie de dire, voilà, de la relation que j'ai à Dieu, diverses paroles vont prendre divers chemins en moi, en nous. Et on remarque que, ben voilà, c'est très différent, la manière dont ça va s'incarner, ça va vivre. Donc le défi de la prédication pour moi maintenant, c'est pas de vous transmettre une bonne semence, c'est votre travail maintenant de savoir ce que vous allez faire de cette semence, comment vous allez la laisser travailler en vous. Et donc moi, ma question obligée, c'est quoi la bonne terre? C'est quoi cette bonne terre? Parce que finalement, j'ai envie de porter du fruit. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans ma vie, je vais être une bonne terre? Et j'ai presque envie de dire que la bonne terre, finalement, c'est celle qui n'a pas les freins des trois autres. Le diable n'enlève pas, les épreuves ne sèchent pas, les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie n'étouffent pas. C'est ça la bonne terre. Le diable n'enlève pas, les épreuves ne sèchent pas, les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie n'étouffent pas cette parole. Et c'est là où ça devient un peu plus complexe. Parce que je ne sais pas pour vous, mais les richesses, ben, je trouve qu'on est dans un pays où quand même on en a quelques-unes. Et jusqu'où elles viennent étouffer cette parole de Dieu? Les soucis, moi j'en ai un ou deux. Jusqu'à quel point ça ne vient pas enlever cette parole? Voilà, comment je vais être en relation avec ces choses? Comment je gère cela pour que la semence de Dieu puisse arriver dans une bonne terre? C'est ça la question de Dieu. La parole, il nous la donne. Comment je vais gérer ces divers éléments qui font que ma vie est ma vie pour que cette parole puisse porter du fruit? En deuxième lieu, et ça c'est parce que j'habite un petit village où il y a plein de champs autour, une bonne terre est une terre qui est préparée. C'est une terre qui a été labourée, qui a été aménagé. Alors aujourd'hui, on dirait que c'est l'agriculteur qui a préparé cette terre, on pourrait dire que c'est Dieu qui prépare cette terre. Ce qui pose toute la question, comment je laisse Dieu travailler en moi pour me préparer à recevoir la parole de Dieu? Et là, je vais être contradictoire avec ce qu'on dit sur Expresso, parce qu'on préfère que les gens y passent 2 minutes, mais est-ce que la parole de Dieu peut faire son œuvre en 2 minutes? Bien sûr, l'Esprit de Dieu, le miracle, j'y crois profondément. Mais n'y a-t-il pas quand même une préparation à recevoir la parole de Dieu? Est-ce si simple de recevoir « aime ton ennemi » ? Comment elle va porter des bons fruits, cette parole de Dieu ? Regarde l'intérêt de l'autre comme étant supérieur au tien. Comment va-t-elle porter du fruit ? Comment est-ce que je prépare pour que cette parole puisse porter son fruit ? Est-ce que je suis prêt à recevoir une parole que je n'attends pas? Inattendue. Vous savez, quand on lit la Bible, tout d'un coup, il y a des paroles quand même un tout petit peu inattendues. Hein? L'homme qui découpe sa femme en 12 morceaux est inattendu. Comment va-t-elle tomber dans une bonne terre? Le fruit au centuple? Là, je vous laisse interpréter. Et enfin, une bonne terre, pour moi, et là, les disciples, et je n'ai pas lu cette partie, mais les disciples nous donnent quelque chose pour dire ce qu'est une bonne terre. Ils viennent et ils vont interroger Jésus. Ils partent du principe qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas tout compris. Cette attitude d'humilité face à la parole de Dieu. Finalement, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. J'ai besoin des autres pour qu'ils me l'expliquent, pour qu'ils l'approfondissent. J'ai pas tout compris. Cette attitude où je vais aller interroger, où je me mets à genoux devant le Père. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Franchement, c'est pas clair. Je ne comprends pas. Il y a des textes, franchement, je ne sais pas pour vous, mais c'est pas clair, cette parole de Dieu. Aller interroger, demander. Donc si je me mets vraiment à l'écoute, eh bien, il y a la question de la bonne terre. Être préparé, savoir comment je gère ces soucis, ces épreuves, ces richesses. et puis oser aller devant les autres, devant Dieu, pour poser les questions, parce qu'on n'a pas la science infuse, même si fondamentalement on pense qu'on l'a. J'avance. Je vais passer au deuxième axe, rapidement, parce que comme j'ai dit, on est sur deux jambes à la ligue. Et c'est celle des enfants. Et j'aime beaucoup parce que je travaille avec une dame catholique dans la catéchèse, elle est en train d'écrire un livre qui s'appelle « Les enfants portiers du royaume ». Elle fait référence à un texte biblique bien connu aussi, et c'est ce que j'aime quand on travaille avec les enfants. Matthieu 18, 1 à 3. À ce moment, les disciples s'approchent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?»« Moi. » Alors Jésus appelle un petit enfant, le place au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » J'ai jamais de ma vie entendu un appel à la conversion que celui qui veut être un petit enfant lève la main. Si vous ne vous convertissez pas et devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Comment cette semence va cheminer en vous? Mais ce que je trouve intéressant dans cette parole de Jésus, c'est justement cet appel, ce regard à porter sur les enfants. Finalement, les enfants, ils ont quelque chose du royaume que peut-être on perd avec le temps, avec notre histoire, dans le monde adulte. Et est-ce que j'arrive encore à percevoir cela dans les enfants? Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire que les enfants, ils ont tout compris et c'est eux qui vont nous enseigner. Je ne dis pas ça. Nous avons toujours un rôle d'adulte, de pédagogue et des choses à transmettre. Mais eux aussi, ils ont quelque chose du royaume, visiblement, à nous dire, à nous transmettre, qui va faire que si je deviens comme eux, dans ce domaine-là, j'entre dans le royaume de Dieu. Et ça, est-ce qu'on le voit encore? Et ça, c'est la richesse de travailler avec les enfants. C'est que tout d'un coup, vous percevez des valeurs du royaume de Dieu que finalement, avec notre histoire d'adulte, on perd. L'émerveillement et la capacité de montrer son émerveillement devant un sapin. Tout son corps manifeste cela. L'adulte nettement moins et le vaudois encore moins. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais n'y a-t-il pas là quelque chose du royaume de savoir montrer, être cohérent entre notre corps, nos émotions et ce qu'on perçoit? N'est-il pas là, dans la cohérence, quelque chose que Dieu nous appelle à vivre aussi? Donc, travailler avec des enfants, ça nous remet en perpétuelle question, parce qu'ils viennent toujours avec leurs petites questions qui sont complètement décalées, mais qui nous disent quelque chose de Dieu. Le miracle n'est pas un problème pour un enfant. Dieu qui change l'eau en vin, ce n'est pas une question, c'est vrai. Nous, on va réfléchir. Non, lui, bah oui, il l'a fait, point final. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut être complètement crédule, loin de moi cette idée, mais cette fraîcheur de recevoir une parole et de la croire qu'elle est telle qu'elle est. Donc en regardant les enfants, en travaillant avec eux, finalement, ils nous disent quelque chose du royaume. Est-ce qu'on le voit encore? Et puis nous, parce qu'au fur et à mesure de notre histoire, ben, on a des ronces, on a des oiseaux, on a des cailloux qui viennent se poser dans notre vie. Eux, au début de leur vie, ils n'ont pas tout ça. Et c'est ce qui fait que peut-être ça pénètre un peu plus. Donc pour terminer, je dirais simplement, si on veut être une bonne terre, est-ce que Jésus ne nous dirait pas, regardez tout simplement comment les enfants reçoivent la parole et vous aurez une clé de ce que signifie être la bonne terre pour porter du bon fruit. Merci.